35 ans dans la médecine légale, 20 années d'expertise auprès de la Cour d'appel, affaire suivante, reçoit l'un des médecins légistes les plus reconnus, Bernard Marc, qui publie Pour les morts et les vivants. L'occasion, évidemment, d'en savoir plus sur ce métier et sur les affaires qui vous ont marqué. Bonjour Bernard Marc.
Bonjour, merci de
m'accueillir. Médecin légiste, donc, avec plaisir, Pour les morts et pour les vivants, je le montre, paru chez Mareuil. Pourquoi ce titre, Pour les morts et les vivants? Quand on s'adresse à un médecin légiste, on se dit que la seconde partie n'est pas forcément évidente. Expliquez-nous.
Eh bien, la médecine légale, c'est une médecine légale de l'ensemble des violences, et l'ensemble des violences concerne les morts et les vivants, et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre dans la variété de notre métier qui est dans les unités médico-judiciaires à l'heure actuelle en France, et d'essayer d'en donner une vision la plus moderne, la plus contemporaine.
Avant de vous laisser dans les mains de Laurent qui a adoré votre livre, j'ai noté une déclaration. Vous dites au cinéma, dans les polars, le légiste c'est toujours un type un peu fou, un médecin lugubre et solitaire qui préfère la compagnie des morts à celle des vivants. Dans la vie, ce n'est rien de tout ça. C'est quoi alors?
Eh bien, on essaie d'être un médecin d'abord. Ouais. D'abord, avant d'être légiste, c'est peut-être ça la différence. Et effectivement, on doit donner un petit peu cette vision, s'éloigner de cette vision du personnage un petit peu lugubre ou cynique, etc. Même si on doit avoir une expérience, une carapace qui nous permet d'affronter des choses pas commodes et d'entendre des choses pas commodes pour les morts et les vivants. Eh bien, le récit des victimes est parfois quelque chose de très difficile à entendre.
Oui, parce que vous savez, dans tous les villages, il y a un monument aux morts. C'est que des hommes. Et alors, un peu vous, ce livre, c'est un peu votre monument à vous, aux morts à vous, de l'hôpital. C'est essentiellement des femmes. D'ailleurs, vous le dédiez à plusieurs femmes qui vous ont marqué, hein. Je pense à Agnès, Angélique et Maude. Et en fait, c'est là où votre livre est extrêmement touchant, puisque à la fois ce sont des femmes mortes ou vivantes, hein, parce que vous faites aussi énormément de violences faites aux femmes. Et on sent que ce sont vos morts à vous, et presque vous avez mission, vous les avez fait parler, vous essayez de faire parler leurs derniers instants. Vous avez presque mission, au fond, de nous raconter ce qui s'est passé.
Bien, vous l'avez bien saisi, effectivement. Alors, si on prend des données très criminologiques, les agresseurs sont principalement masculins et les victimes principalement féminines. Et dans les chiffres de la violence, ces violences intrafamiliales au sens large concernent énormément une proportion très très importante de femmes. Donc obligatoirement, on les a croisés. Obligatoirement, ce sont des choses qui ont été rudes. Et j'ai essayé de retranscrire, tout simplement, je crois que je l'ai écrit avec le cœur, cet ouvrage, de retranscrire, et vous le dites, d'une façon inconsciente, effectivement, ces images-là sont des images très marquantes au décours d'une carrière où les victimes sont multiples, vivantes et mortes.
Oui, parce que on dit tout le temps le médecin légiste, c'est celui qui fait parler les morts, mais c'est vrai qu'il fait parler les morts, puisque au contraire, si je dois résumer votre travail, c'est essayer de comprendre ce que le mort va vous dire de ce qui s'est passé dans ces derniers instants.
Oui, c'est exactement ça. Et puis de comprendre aussi les phénomènes criminologiques. Quand je suis appelé des années plus tard à voir le meurtrier d'Angélique...
Angélique Dumette.
D'Angélique Dumette.
Vous permettez, je raconte juste, nous sommes 13 octobre 96. Angélique, c'est une adolescente, elle a 18 ans. Elle est retrouvée en forêt de Compiègne, assassinée à la sortie d'une boîte de nuit, poignardée, égorgée, probablement violée. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Eh bien, là, il y a un premier temps. Le premier temps, c'est celui qui va me donner le service. C'est le docteur Vorauer, et je vais avoir à reprendre son service et à le développer. Et donc, il a cette affaire, et qui est une affaire qui n'est pas conclue. Et il y a des prélèvements, et sur les prélèvements, il y a de l'ADN. On a l'ADN de l'auteur, mais pas de fichier, pas de moyen de le comparer. Il va falloir que la famille se batte pour faire en sorte que le fichier national des empreintes génétiques soit créé et existe. C'est un combat de très longue haleine. De très longue haleine, et dans cette très longue haleine, j'arrive, il y a même un rond-point qui s'appelle le rond-point Angélique à Compiègne. Cette histoire-là a marqué les parquets, et puis au moment où j'arrive, on commence à un petit peu la laisser de côté. Et puis arrive un féminicide tout à fait effroyable. L'homme va la tuer, brûler, Alice.
Mais même avant, vous la voyez, vous alertez, vous essayez de dire cette femme est en danger. Et puis finalement, ça va pas réussir. C'est le premier chapitre de votre livre. Ça commence par ce regret que vous avez de pas avoir sauvé la vie d'Alice, au fond.
Et en fait, oui, parce que on est des années avant aujourd'hui, il n'y a pas cette même réactivité, il se passe des choses, et j'ai suffisamment d'expérience à l'époque pour sentir, si vous voulez, sentir la dangerosité sur toutes les victimes qu'on voit. Et là, il y a eu un acharnement, il y a eu des violences, il y a quelqu'un dont on sent la virulence. Quelques jours après, donc, il va commettre ce crime absolument abominable, il va se suicider dans des conditions...
Il tue Alice. En l'immolant par le feu.
Il va essayer de s'immoler par le feu, il n'y a plus d'essence, il essaie d'arrêter des automobilistes sur une route, finalement. Il se noie, enfin... Et puis, derrière, les empreintes génétiques vont arriver, puisqu'il a été mis en garde à vue, les empreintes génétiques arrivent avec tranquillité.
C'est lui, Angélique.
C'est l'auteur. Et rebond supplémentaire, le magistrat qui est obligé de me demande d'expertiser, parce qu'on a trouvé l'arme qu'il a utilisée pour tuer sa femme, et je vais avoir à comparer les plaies d'Angélique et les plaies sur Alice. Et c'est la même arme qui a été utilisée.
Le même poignard.
Le même poignard.
Pendant des années dans sa table de nuit, j'imagine. Et vous vous rendez compte que cet homme au tatouage, avec un tatouage de tigre et un couteau, il a tué Angélique et il tue sa femme.
Et là, on dit tout de la vie avant, si vous voulez. On dit tout de cette intention de tuer, on dit tout de cette violence. Et on redonne aussi, j'essaie de redonner un peu cette parole, avec ces éléments qui sont là factuels, mais derrière lesquels se tracent des histoires de vie, et c'est un petit peu ce que j'ai voulu retracer.
Est-ce que vous avez conscience d'être aujourd'hui un élément central de tout procès, de toute affaire, un élément potentiellement décisif ? Est-ce que c'est une... J'imagine que vous en avez conscience, mais est-ce que c'est une responsabilité différente qui vous fait appréhender votre métier différemment ?
Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, on est dans les tracés indices, dans la preuve. Donc le scientifique, tous les éléments scientifiques sont véritablement très importants. Et puis il y a des moments où on est véritablement le seul sur la scène de crime. Seul sur la scène de crime, ça peut étonner. Eh bien, quand vous avez la victime d'un viol, c'est un crime. Oui. Et on est les seuls à être là à ce moment-là. Donc on va avoir ce poids tout à fait important, avec des peines qui sont lourdes derrière.
Et vous êtes la parole de la victime qui n'en a plus. C'est vous, au procès.
On est cette parole, on est la parole de l'enfant qu'on va ramener. Parce que quand on va examiner de tout petit, on va être là. Quand on va examiner un bébé secoué, eh bien, il va falloir qu'on puisse porter cette parole et la porter non pas virulence ou avec un parti pris, mais essayer de la porter le plus posément, le plus solidement possible, parce qu'il faut qu'elle soit entendue. Il faut que notre voix de professionnel aide celui qui est parfois désemparé devant un système judiciaire qui est complexe.
Est-ce que la technologie a ou va révolutionner votre métier et la façon dont on enquête, dont on démontre les responsabilités ?
J'en suis un petit peu la preuve vivante. Je suis entré dans la médecine légale comme jeune interne au moment des empreintes génétiques. Alex Jeffrez les sort. Un an plus tard, la première unité médico-judiciaire s'ouvre à l'Hôtel-Dieu et je rentre dans cette unité médico-judiciaire. Et puis, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, arrive la virtopsie, l'imagerie virtuelle, qui au départ était quelque chose de très exceptionnel. On est en 2004-2005, deux équipes, celle de Toulouse et celle de Compiègne, à le mettre en place et à faire de l'imagerie numérique, à numériser nos images de corps, à apporter des éléments complémentaires qui vont servir en balistique. Et aujourd'hui, c'est une technique qui est reconnue. La société d'imagerie médico-légale vient de rentrer dans la société de médecine légale. Donc vous voyez, bien sûr la technologie avance, bien sûr la science avance, et bien sûr on s'intègre de plus en plus dans le processus judiciaire.
Et c'est à lire dans cet ouvrage qu'on peut recommander, parce que c'est extrêmement intéressant, personnel, professionnel, scientifique, médecin légiste pour les morts et les vivants, la violence disséquée. Merci beaucoup Bernard.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Laurent Valdiguier.
Merci Ronald.
Merci de m'avoir accompagné pour ce qui sera donc ma dernière émission sur BFM TV.
Cette dernière minute.
Exactement.